pas. L'information continue sur RFI. Ce soir avec vous, Marion Kazanov, bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. C'était la première élection depuis le vaste mouvement de contestation en Iran. Vendredi, les conservateurs ont remporté sans surprise les législatives. Sans surprise car l'opposition boycottait ce scrutin. La participation s'élève à 41%, soit une abstention record dans la République islamique. Un premier test pour les conservateurs au pouvoir qui ont violemment réprimé le mouvement Femme, Vie, Liberté, né après la mort de Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne arrêtée pour un port du voile non conforme. Alors, quelles leçons les conservateurs vont tirer de ce scrutin et surtout de cette abstention record? Le régime en place est-il ébranlé, fragilisé? Et aujourd'hui, que reste-t-il de ce mouvement Femme, Vie, Liberté? A-t-il encore un avenir? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Et avec moi en studio, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. D'abord, comment analyser ce résultat? Est-ce que malgré la victoire des conservateurs, ces derniers doivent considérer que cette abstention record a été un vote sanction contre eux?
Oui, très clairement. Je pense qu'une grande partie de la population iranienne a montré son mécontentement en n'allant pas participer à ces élections. Bon, aussi, c'est pas nouveau non plus. Il faut se rappeler que les dernières élections législatives, je crois que le taux de participation était 42%. Là, on annonce 41%. Donc, en fait, c'est la prolongation de ce mécontentement économique et politique qui existe en Iran, accentué, comme vous l'avez dit, par la crise politique liée à la mort de Mahsa Amini.
Et on peut peut-être rappeler aussi comment s'est déroulée cette élection. L'opposition parlait de simulacre, d'élections non libres. Comment elles se sont organisées?
Oui, alors de nouveau, c'est pas nouveau aussi. C'est-à-dire qu'on a en Iran, vous avez une institution qui s'appelle le Conseil des gardiens qui donne l'autorisation ou pas aux candidats de se présenter. Et là, il semblerait, d'après ce que je disais, il y avait 15 000 candidats qui ont été autorisés à se présenter, mais j'ai lu qu'il y avait 12 000 candidats qui n'ont pas été autorisés à se présenter. Et parmi ces 12 000 candidats, il y a une grande partie des candidats plutôt critiques vis-à-vis du pouvoir. Et je crois qu'il y a même une part importante d'anciens députés de l'ancien Parlement qui étaient trop critiques. Donc vous voyez à quel point il y a une sorte d'épuration quoi, pour qu'il y ait vraiment que les conservateurs aient toutes les chances de contrôler le futur Parlement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les conservateurs, entre eux, les conservateurs et les ultra-conservateurs sont soudés?
Non, pas du tout. On a vu beaucoup de dissensions entre un certain nombre de listes. Notamment, il y avait la liste qui était dirigée par le maire de Téhéran, l'ancien maire de Téhéran, qui était président du Parlement. Une autre liste des Poydori, c'est-à-dire qui sont plutôt des ultra-conservateurs. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est quelque part la défaite des membres de l'ancien Parlement, puisque il y a aussi un nombre record, de postes, enfin de députés qui vont devoir aller au deuxième tour. Et d'après ce que je lisais dans la presse iranienne, ce qui est très étonnant, et je crois que c'est rarement arrivé, il y a un nombre de bulletins blancs qui font que quelque part celui qui arrive en tête ou qui est en deuxième position, c'est plutôt les bulletins blancs. Donc on en est quand même une situation qui est quand même mauvaise pour, va dire, la légitimité de la République islamique d'Iran, parce qu'on a quand même un nombre record d'abstention. Et à l'intérieur de ceux qui ont voté, il y a un nombre record de bulletins blancs. Donc même si ceux qui gagnent, finalement, qui représentent? Ils représentent une part de plus en plus petite de la population iranienne.
Donc pour les conservateurs, leur popularité, leur situation se détériore, on peut le dire, de scrutin en scrutin?
On va dire, le taux de participation est très faible, mais un tout petit peu plus faible que celui de 2020. Mais ce qui est vrai, ce qui est accentué, c'est le nombre de bulletins blancs. Et il y a même certaines analystes qui diraient, ce qui peut être également inquiétant pour les conservateurs, c'est pour un certain nombre de l'électorat traditionnel des conservateurs qui, pour un certain nombre de raisons, a l'habitude d'aller voter, mais là, montre son mécontentement en mettant un bulletin blanc. Donc effectivement, ils représentent plus qu'une minorité de la population. Et à l'intérieur de la base populaire qu'ils représentent, il y a un vrai mécontentement.
Et cette minorité de la population, ces Iraniens qui votent pour eux, les conservateurs, qui sont-ils?
Alors, déjà, on a un peu un ordre d'idée, parce que là, on a quand même un taux de participation de 40%. Bon, il y a différentes raisons. Il y a une partie de la population iranienne qui, sur le plan de la morale islamique, par exemple, le respect du voile, on va dire des familles très religieuses, très traditionnelles. Donc, quelque part, pour eux, c'est très important. Donc ils vont défendre d'abord la morale islamique, ils vont défendre la supériorité du religieux sur le politique, donc le poste de guide représenté par Ali Khamenei. Bon, il y a également, des intérêts rentiers, des intérêts économiques, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le secteur parapublic, ces entreprises qui appartiennent aux fondations révolutionnaires ou aux passes d'Aran, ça contrôle à peu près 20% de l'économie. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent, une grande partie des gens qui sont fonctionnaires en Iran. Donc quelque part, j'écoutais également une déclaration ce matin, il y a des gens qui disent pour mon travail ou mes perspectives de travail, j'ai plutôt intérêt à aller voter. Donc vous mettez ça ensemble, voilà, on atteint quand même une base sociale, il ne faut pas se tromper, elle existe. Mais voilà, on va dire autour peut-être 30%, comme le montrent les chiffres, 30% de la population.
Et si tous les candidats pouvaient se présenter dans l'opposition, qui gagnerait? Parce qu'on parle de l'opposition des réformateurs et aussi des modérés. Oui. Donc l'opinion se dirigerait plutôt vers quel camp?
C'est une bonne question. Alors, on aurait fait cette émission à la fin des années 90. Il y avait une large majorité des gens qui votaient pour ce qu'on appelait les réformateurs. Mmh. Donc ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, là où la situation politique est un peu compliquée en Iran, c'est que les réformateurs, effectivement, ils ont été disqualifiés. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une certaine déception par rapport à leur action en Iran. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Sans doute, ils auraient pu récupérer une partie du mécontentement lié aux protestations liées à la mort de Mahsa Amini. Mais on sait également que Le mécontentement de la population iranienne qui dit quelque chose en n'allant pas voter. C'est en grande partie cette classe moyenne, urbaine, éduquée. Ce qu'elle dit, c'est que je ne suis pas satisfaite de l'offre politique que vous avez. Et donc là, il y a une vraie crise politique, une vraie crise de légitimité chez les réformateurs, quelque part, qui n'ont pas su convaincre que ça servait à quelque chose de voter pour eux quand ils étaient aux affaires.
Et alors j'aimerais qu'on écoute à présent ce témoignage d'une jeune iranienne, Zahra, interviewée il y a quelques mois sur notre antenne.
L'assassinat de Mahsa Jina Amini a fait exploser la colère étouffée pendant ces 43 années. Malheureusement, durant ces manifestations, les criminels du régime sont allés jusqu'à tuer des enfants de 10 ans, des jeunes de 17 ans. On pourrait croire qu'aujourd'hui, ces manifestations sont éteintes, mais ce n'est pas le cas. En réalité, la colère des gens est comme le feu sous la cendre. Les gens sont très énervés. C'est un régime sur le départ. Ce régime criminel n'a plus sa place et n'aura plus jamais sa place parmi nous.
Voilà, la colère est comme le feu sous la cendre, dit cette iranienne. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce mouvement de contestation femme, vie, liberté?
Alors effectivement, pour reprendre ce qui vient d'être dit, je crois que tous les facteurs qui ont conduit à cette crise, ils sont là, ils sont toujours là. Il y a la modernisation de la société iranienne, parce qu'il faut bien savoir, on peut critiquer la République islamique d'Iran, mais il y a un point positif, c'est l'élévation du niveau d'éducation, et notamment des femmes. Je lisais dans un rapport de la Banque mondiale qui considère que le taux d'éducation des femmes en Iran est équivalent, dans le supérieur, est équivalent à celui de l'OCDE. Donc on a un très fort niveau d'éducation des femmes. Mais face à ça, face à une élévation du niveau d'éducation, vous avez des demandes de liberté, liberté individuelle, droit de porter le voile ou non, ou pas, des demandes de démocratie, des demandes d'état de droit, donc toute une série de demandes sociétales et politiques qui vont avec cette modernisation de la société iranienne. Vous avez également un problème politique, on en a parlé, c'est que finalement, depuis 2020-2021, c'est les radicaux, les ultra-radicaux qui contrôlent tous les pouvoirs en Iran. Et ils sont... Leur offre politique, c'est par exemple, c'est insister sur la morale islamique, ils voulaient faire plus de censure sur Internet, ils brandissent toujours la question de l'opposition à Israël et la défense de l'axe de résistance. Bon, c'est à rebours, ou c'est pas du tout ce que veulent cette société iranienne de plus en plus moderne. Et puis vous avez également un autre facteur qui existe toujours, c'est la crise économique. D'après la Banque mondiale, de nouveau, on a... Alors, parce que les sanctions qui touchent l'Iran, ce n'est pas simplement récent. C'est depuis toute la décennie 2010, on aurait à peu près un peu plus de 9 millions d'Iraniens qui sont tombés dans la pauvreté entre 2011 et 2020. Mmh. Taux de pauvreté maintenant qui est autour de 30%. Donc vous avez une partie de la population, notamment de la classe moyenne, qui est tombée en dessous du seuil de pauvreté, qui n'en peut plus. Vous mettez tout ça ensemble. Effectivement, on a un vrai mécontentement qui est de nature sociétale, politique et économique.
Mais est-ce qu'il existe toujours ce mouvement de contestation qui a commencé par des manifestations? Est-ce qu'aujourd'hui, la colère, elle continue de se traduire à travers d'autres actions?
Alors, on n'a plus ces affrontements qu'on a connus fin 2022, mais des vrais affrontements avec plus de 500 morts et puis 60 morts du côté des forces de sécurité. Il y a encore des foyers plus de contestation. C'est plutôt au Sistan, la province du Sistan-Baloutchistan et du Kurdistan. Mais on n'a plus ces affrontements qu'on a connus dans la rue. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est quelque part la lutte, entre guillemets, continue à travers les femmes. C'est ce qu'on voyait pas, ce que j'ai jamais vu quand j'allais en Iran, c'est maintenant les femmes qui décident de sortir dans la rue sans voile. Mm. Elles ont même pas le voile mal mis, elles ont sans voile. Donc là, c'est...
Ça reste.
Ça reste. Alors, c'est pas non plus, c'est pas toutes les femmes, mais on a, sur les vidéos, sur les informations, les reportages qu'on a, on a de plus en plus de jeunes femmes ou de femmes qui ne portent pas le voile. En sachant que... le régime est très mal à l'aise là parce qu'il ne peut pas mettre un policier derrière chaque femme. D'un autre côté, il y a de la vraie répression parce qu'elle risque d'être arrêtée. Notamment, je crois que leurs voitures sont confisquées. Ça coûte très cher. Ça prend beaucoup de temps pour la récupérer. Il y a une loi en préparation au Parlement. Le nouveau Parlement devra trouver une nouvelle loi par rapport à ce problème. Mais je veux dire, quelque part, derrière ce voile, c'est tous les facteurs dont on a parlé. Il n'y a pas que le voile. Il y a tout ce mécontentement qui s'exprime. Mais par contre, le mouvement tel qu'on l'a connu s'est arrêté. Alors, pourquoi ? C'est vrai qu'on était face à un mouvement qui si vous voulez, c'était comme une explosion de colère, comme ça a été très bien dit dans votre reportage. Mais je ne pense pas qu'il y avait un programme, on va dire, politique et économique qui aurait pu amener à convaincre. Si vous voulez, en Iran, tout en restant prudent, on en a parlé, une minorité qui soutient le régime, une minorité, notamment les jeunes, qui sont très en colère. Au milieu, vous avez cette classe moyenne qui n'en pense pas moins, on vient d'en parler, qui veut la démocratie, l'état de droit, mais qui ne veut pas tout renverser.
Et son opinion n'a pas changé après la violence de la répression ?
Il est clair, vous avez la réponse avec le taux de participation à ces élections législatives. 60% d'abstention. Donc la réponse est là. C'est-à-dire une grande partie de cette classe moyenne qui ne veut pas le renversement dans la violence, elle envoie un message. On n'est pas content et on ne va pas aller voter. D'un autre côté, pour répondre à votre question, je pense que ce mouvement de colère, derrière, il n'y avait pas ce qui inquiète les gens, c'est bon, ok, vous nous dites de renverser la République islamique d'Iran, mais qu'est-ce qui va venir après ? Donc il n'y avait pas, quelque part, un programme politique qui aurait donné une alternative. Et puis il y a l'idée aussi de cette classe moyenne. Elle regarde ce qui se passe dans la région. Elle voudrait que ça se passe en gros sans trop de cas, sans effusion de sang. Donc si vous voulez, il y a au milieu cette classe moyenne qui n'a pas vraiment participé à ces manifestations, mais qui n'a pas été convaincue par simplement des slogans pour aller dans la rue et tout casser, quoi.
Et donc, quel impact jusque-là ce mouvement a eu en Iran à l'international, on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'aussi le fait qu'en Iran, les médias soient très contrôlés, etc., tous les Iraniens ont pu s'informer correctement aussi sur ce qu'il se passait ?
Alors, c'est toujours difficile d'expliquer ça, mais beaucoup d'opposants qui sont à l'intérieur de l'Iran, mais qui connaissent bien l'Iran, je pense que cette modernisation de la société iranienne, on la voit partout. Et donc, effectivement, il y a de la censure, il y a de la répression, il y a des journalistes qui sont allés en prison. On a parlé de ces journalistes qui avaient enquêté sur la mort de Mahsa Amini. Je crois qu'il y a deux journalistes qui sont... je pense qu'elles sont toujours en prison. Ça, les journalistes font partie, avec les avocats, font partie des classes sociales en Iran qui ont beaucoup souffert de la répression. D'un autre côté, on est frappé. Je pense que c'est ça un peu la caractéristique de la République islamique d'Iran. C'est qu'ils ne peuvent pas non plus tout fermer. Et donc, les gens parlent, les gens s'expriment. Donc, j'écoutais... Alors, c'est vrai que quand il y a des élections en Iran, le régime qui veut pousser les gens à participer à voter, tout d'un coup, il y a des choses qu'on dit qu'on ne disait pas avant. Mais il y a des choses qui se disent, cette situation, elle est connue par tout le monde. Ce dont on parle ce soir, elle est connue par tout le monde, par tous les dirigeants, par la population. Je vous donne un exemple. Il y avait un débat sur la chaîne publique iranienne. La personne disait « Je ne voudrais pas qu'on se retrouve comme juste avant la révolution, quand le chat a dit j'ai entendu, vous savez, le chat avant la révolution, il a dit j'ai entendu le bruit d'une révolution, mais c'était trop tard. Et Mehdi Bazargan, qui est devenu Premier ministre après la révolution, lui a dit c'est dommage que vous ne l'ayez pas dit avant, c'est trop tard. Et dans la République islamique d'Iran aujourd'hui, ce qui veut dire à quel point les gens se rendent bien compte qu'il y a une crise politique, disent agissons avant qu'il soit trop tard. Donc pour vous répondre, oui, il y a de la censure, mais vous voyez, tout ce mécontentement politique et économique, bon, on lit la presse iranienne, même censurée, ben on s'en rend bien compte.
Voilà, vous avez parlé du facteur économique, donc la priorité aujourd'hui des Iraniens a l'air aussi d'être très centrée sur ça, sur l'inflation, les dysfonctionnements économiques. Est-ce que ça pourrait prolonger ce mouvement de contestation ou en faire naître un autre, continuer à fragiliser le régime?
Ça, ces questions-là, c'est compliqué. Ce qui est très clair, c'est que cette classe moyenne dont on a parlé, parmi ces revendications, il y a l'économie. Parce que si vous voulez, eux, politiquement, ils ne sont pas contents, ils voudraient de la démocratie, ils voudraient un état de droit, mais cette classe moyenne est directement touchée. Il y a déjà les pauvres, hein, je veux dire, il y a 30% de pauvres, et ces 30% de pauvres, je veux dire, on était à 20% de pauvres, il y a 10 ans, maintenant on est à 30%, c'est quelque part la classe moyenne iranienne qui est en train de disparaître. Donc parmi leurs revendications, évidemment, il y a une amélioration de la situation économique. Il y a deux éléments qui sont très importants pour eux. C'est déjà plus de croissance et notamment des créations d'emplois pour les jeunes diplômés, parce que les jeunes diplômés en Iran représentent un peu plus de 40% des chômeurs. Donc il y a un énorme problème en Iran d'émigration des cerveaux dans tous les domaines, hein, dans le domaine du high-tech. Les ingénieurs, c'est connu. Il y a même le domaine médical, niveau même infirmière, les Iraniens. Alors, il y a un mécontentement politique, mais derrière, ils préfèrent partir. Donc, il y a un vrai problème. Puis, il y a un autre problème dont on a parlé, c'est l'inflation. Depuis 2018, quand même en grande partie à cause de la réimposition des sanctions américaines suite à la sortie de Trump de l'accord sur le nucléaire, on a une inflation en Iran entre 30 et 50%. Donc, 30 à 50% ont compté depuis 2018 chaque année. Il y a une grande partie de la classe moyenne iranienne qui a de plus en plus de mal à suivre. Donc effectivement, ça fait partie de leurs revendications.
Et donc face à cette abstention pour le régime, pour les conservateurs, est-ce qu'il est encore temps pour le régime de se réformer, de proposer d'autres choses pour vous? Ou est-ce que c'est sa dernière solution? Ou alors est-ce qu'on va, comme certains chercheurs le disent, vers une chute du régime?
Vous savez, les prévisions avec la République,
c'est
compliqué. Non, ce qui est clair, c'est qu'on voit, je pense, une contradiction. Enfin, comment expliquer ça? Je pense qu'ils sont mal à l'aise. D'un côté, ils ont annoncé, si vous voulez, ce qui est intéressant avec l'Iran, c'est qu'on a d'autres pays quand même, hein, qui nous annoncent toujours des taux de participation de 90%, notamment des grands amis de la France, etc. Bon, donc là, il y a quand même, ils ne le cachent pas le problème.
Les solutions qui sortent?
Alors, ils disent, quelque part, il y a une idée, ça aurait pu être pire. Donc c'est un peu ce que disent les conservateurs. Il y a également, je pense, le sentiment des conservateurs, des ultras, et peut-être sans doute d'Ali Khamenei, de dire, voilà, ce qu'il faut, beaucoup de choses qu'ils font actuellement, c'est déjà maintenir, d'avoir leur base sociale dont on a parlé, qui continue à les soutenir. Donc pour eux, la priorité des priorités, c'est au moins avoir le soutien de cette base sociale dans les réformes. Mais c'est vrai qu'on entend, je vous ai parlé de ces débats à la télévision publique, il y a de plus en plus de gens qui disent en Iran, je crois qu'il y a un grand économiste qui a travaillé pour la République islamique d'Iran, qui a fait une grande intervention là-dessus, c'est combien de temps on peut continuer comme ça? C'est-à-dire, alors effectivement, les durs, ils peuvent dire on a 30-40% de la population qui nous soutient, ils contrôlent toutes les forces de sécurité, mais je veux dire, sur le plan de la légitimité démocratique, ça pose quand même un gros problème. Donc effectivement, il y a un débat, il y a ceux qui disent, on a le soutien de cette base populaire, d'un autre côté, il y a ceux qui disent, on a une légitimité démocratique de plus en plus faible.
Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Dans quelques instants, sur RFI, vous retrouvez Romain Ouzoui pour RFI Soir.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio. Priorité santé.